Il est 16h, c'est le moment de vos informations locales et régionales avec Alexis Goyer. Alexis, les municipalités sont inquiètes de la fin des prêts hypothécaires en zone inondable.
Le mouvement Desjardins a pris la décision de ne plus accorder de prêts pour l'achat de résidences situées en zone inondable. Cette nouvelle provoque une onde de choc qui se répercute dans plusieurs municipalités de la vallée de la Gatineau. Le mouvement Desjardins était la dernière institution financière à accorder du financement, même en zone inondable. L'impossibilité d'obtenir des prêts pourrait empêcher la plupart des résidents d'acquérir une propriété en bordure d'un lac dans un premier temps, mais également empêcher des propriétaires de procéder à la vente de leur résidence. Le maire de Gracefield, Mathieu Caron, affirme qu'il s'agit d'une situation injuste et que Desjardins oublie sa mission de caisse populaire.
Ça a des impacts très importants. On parle de transactions qui pourront pas être effectuées, des gens qui vont rester pris avec leur maison. Malheureusement, là, ils vont perdre leur patrimoine familial. Donc, c'est très grave pour ces gens-là. Parce que Desjardins oublient leur fondement même, qui sont une coopérative.
Une résidence qui ne peut plus être vendue ou achetée perdra de sa valeur, ce qui, à terme, peut menacer la valeur foncière du parc immobilier d'une municipalité. C'est l'une des craintes exprimées par le maire de Gracefield.
Certainement qu'on a des maisons qui sont en zone inondable et on a peur de ça, oui, exactement. On a une perte de valeur foncière, mais c'est surtout au niveau du citoyen. Je trouve ça terrible pour ces citoyens-là qui vont perdre le patrimoine familial.
Le secrétaire de l'Association du Grand Lacron, André Patry, explique qu'une partie importante des revenus de certaines municipalités provient des habitations riveraines.
La ressource foncière principale, ce sont les lacs. 75% plus des revenus fonciers, ça provient des lacs. Malheureusement, ce sont un peu, avec les années, habitués à ces revenus-là, puis eux autres, dans leur tête, pensent que cet argent-là, ça vient du village, puis ils ne réalisent pas que ça vient des lacs.
La ville de Gracefield ainsi que l'association du Grand Lacron ont toutes deux affirmé qu'ils feront pression sur les autorités responsables afin de soulager le fardeau des résidents concernés.
Il y a l'association des gestionnaires en sécurité incendie de la vallée de la Gatineau qui approuve cette tendance-là au regroupement des brigades incendie.
Les municipalités de Bouchette et Blouci sont présentement en discussion sur la possibilité de regrouper leurs services de sécurité incendie. Cette idée vise à rendre leurs interventions plus rapides et plus efficaces. Le président de l'Association des gestionnaires en sécurité incendie de la vallée de la Gatineau, Éric Lacaille, précise pour quelles raisons le regroupement des services de sécurité incendie est une idée qui gagne en popularité dans les petites municipalités du Québec.
C'est au travers du Québec là, que la cloche ça sonne partout. On a des problématiques par rapport au manque de main-d'œuvre dans les petites municipalités. Ça fait que une des solutions, mais oui, c'est deux services qui s'associent ensemble pour être capable d'offrir une plus grosse force de frappe là, à l'appel initial.
Un autre enjeu auquel doivent faire face les brigades incendies sont les délais d'intervention qui, s'ils ne sont pas respectés, peuvent aboutir à des poursuites. Le regroupement de plusieurs services de sécurité incendie pourrait également permettre la création d'emplois.
Tout dépendant du nombre de services incendies qui peuvent se regrouper, bien, ça peut venir à créer des emplois quand même à temps partiel en caserne. Oui, ça pourrait venir avec tout dépendant le nombre de services qui peuvent se regrouper ensemble, tout dépendant le nombre d'appels qu'on se ramasse par année, mais on pourrait venir avoir des petits emplois de même là, en caserne.
Le projet n'en est encore qu'à l'étape des discussions entre les municipalités de Bouchette et Blouci.
On parle maintenant de ce coroner qui recommande une formation pour conduire une motoneige à la suite d'un accident qui est survenu à Val-des-Bois.
Le rapport du coroner vient de paraître sur le décès de Patrick Proux à Val-des-Bois en mars 2022. L'homme de 37 ans avait percuté un arbre alors qu'il se baladait hors piste au volant de sa motoneige sur le sentier 43. À l'époque, le décès de Patrick Proux avait été constaté sur place. Le coroner mentionne dans son rapport que l'accident est attribuable à la fatigue et à une conduite avec les facultés affaiblies. Pourtant, Maître Pascal Boulay recommande de rendre tout de même obligatoire une formation pour conduire une motoneige. Michel Garneau, directeur des relations externes et projets spéciaux à la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec, s'exprime à ce propos.
C'est certain qu'on n'est pas contre aucune initiative ou démarche qui peut aider à améliorer le bilan sécuritaire de la motoneige. Toutefois, il faut tout de même que les gestes qui seraient entrepris soient effectifs et contribuent réellement. Si on regarde dans le cas particulier, il y a toutes sortes de facteurs qui font en sorte que malheureusement, il y a eu un accident mortel, chose qui est très regrettable.
Monsieur Garneau relate qu'il y avait eu un cas semblable en 2009 où un coroner avait émis le même type de recommandation. Pour donner suite à cela, l'Institut national de santé publique du Québec avait reçu le mandat d'effectuer une recherche sur la pertinence d'offrir une telle formation. Monsieur Garneau siégeait sur ce comité à l'époque. Le voici qui parle de la conclusion du rapport paru en 2011.
Le constat a été non concluant. Un élément qui est sorti, par exemple, qui est très intéressant, c'est qu'ils ont examiné, par exemple, la question là, de la conduite avec les facultés affaiblies.
Les formations n'ont pas montré d'effet sur les facultés affaiblies ou sur la vitesse excessive, par exemple. Il faut également savoir que le Québec est la province la plus réglementée en ce qui concerne, entre autres, l'âge requis pour conduire une motoneige. Le rapport est disponible pour consultation sur le site de l'INSPQ.